On va retrouver le dossier de cette émission puisque Michel du Crida nous a rejoint. On retrouve régulièrement dans cette émission Michel pour essayer de regarder un petit peu quelle est la situation qu'il peut y avoir en Europe sur les droites extrêmes et l'extrême droite. Et en particulier, aujourd'hui, évidemment, on voulait parler de l'Italie. De l'Italie où Berlusconi vient de perdre le pouvoir. Et on voulait un petit peu se questionner sur quel type de bilan on pouvait faire du pouvoir qu'a exercé Berlusconi, arrivé quasiment sans parti au pouvoir, et puis avec des collaborations avec des mouvements fascistes, post-fascistes ou néo-fascistes. Tu nous éclaireras un petit peu dans tous ces méandres, essayer de comprendre voilà qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années de pouvoir berlusconien.
Tout d'abord, merci, bonsoir et merci de cette invitation qui est là, c'est un rituel, hein, puisque le sujet est inépuisable en
Inépuisable.
quelque sorte. Ça ne devient pas un marronnier parce que c'est quelque chose de très, très, hélas, de très sérieux, de très grave, surtout pour celles et ceux qui en subissent les conséquences dans leur chair et pas uniquement sur un point de vue idéologique. Effectivement, si je devais résumer le sentiment qui m'anime en trois mots, je dirais que je suis d'abord très heureux, effectivement, heureux donc que Berlusconi et ses acolytes, ses associés post-fascistes, xénophobes, et on y reviendra, aient perdu les élections. Je nuancerai ma joie, hein, car je dirais que les choses sont un petit peu plus compliquées que cela. Ensuite, je suis scandalisé par la situation qui existe en Pologne et surtout par l'absence de réaction des démocrates sincères qui gouvernent les pays de l'Union européenne. Car effectivement, dans ce pays, au pouvoir, on y reviendra, il y a des exemples très très récents de ce que peut faire un gouvernement qui comprend en son sein des extrémistes, des antisémites, des réactionnaires, des conservateurs, des cubéni, osons le mot. Je crois que tout cela, enfin, en Pologne, c'est une banalité, mais il y a des niveaux qui sont différents. Et enfin, une inquiétude. Je suis inquiet, effectivement, moins que ceux qui en subissent, comme je disais à l'instant, les conséquences dans leur chair, mais effectivement, en Europe, dans différents pays, à différents niveaux, eh bien, il y a à la fois, tout d'abord, une répression policière et étatique contre les antifascistes. Ça se passe en Russie, ça se passe en Italie, ça se passe en France, bien évidemment, et aussi des agressions allant jusqu'à l'assassinat en Belgique, en Russie. Dans de très nombreux pays européens, effectivement, il ne fait pas bon, d'une part, d'être antifasciste, mais ça, je dirais, dans l'absolu, on connaît nos ennemis. Par contre, l'agression gratuite, raciste, xénophobe, telles que celles qui ont pu avoir lieu en Belgique, par exemple, sont des choses qui, effectivement, me révulsent, mais j'en arrêterai là avec mes sentiments, car ils n'ont pas grand intérêt en la matière.
Alors peut-être commençons, puisque tu nous as dressé le bilan d'une émission qui va donc être copieuse, commençons par l'Italie. Donc une victoire assez faible, très.
Effectivement, une victoire très faible. On était parti un petit peu. Les sondages donnaient le centre-gauche, comme ça, la gauche, c'est peut-être un peu vite en besogne, disons le centre-gauche dirigé par Romano Prodi, hein, ancien président du Conseil italien, donc ancien Premier ministre, ancien président aussi de la Commission européenne, pro-européen s'il en est, donc, était donné vainqueur. A priori, mais avec une marge quand même relativement plus confortable que celle qu'il a obtenue in fine, car effectivement, on en était parti sur un scénario à la bouche, à savoir à devoir recompter les bulletins de vote un par un, car effectivement, Berlusconi, on y reviendra, en dehors d'être tout ce que nous avons pu en dire, est en plus un mauvais perdant. Mauvais perdant, c'est-à-dire qu'effectivement, encore aujourd'hui, il ne reconnaît pas, même s'il y est contraint par la réalité et aussi par la Cour de cassation italienne, qui a quand même valider, elle ne pouvait pas faire autrement de toute façon, les résultats, mais il continue à dire que, eh bien, tout cela, c'est une immense manipulation et que, de toute façon, y compris les juges, la Cour de cassation, donc, qui ne sont pas forcément des gauchistes échevelés, ces juges, eh bien, effectivement, participent au complot contre sa personne, ses entreprises et ses idées et son parti, puisque ce sont tous des juges rouges, par définition. Un juge, un magistrat en Italie, ne peut être que rouge. Lorsque l'on sait un petit peu comment la justice est rendue vis-à-vis vis-à-vis de nombreux, je dirais, justiciables, immigrés, démocrates, antifascistes et autres. Bon, le terme de juge rouge est peut-être un petit peu excessif en la matière.
D'une certaine façon, c'est pas étonnant de la part de Berlusconi, parce que c'est précisément un peu son fonds de commerce, ce type de fonctionnement, c'est-à-dire de stigmatiser justement une partie de l'appareil administratif, de l'État, des élus, pour justement apparaître comme un opposant, une alternative, en fait. C'est ça.
Alors, son fonds de commerce, effectivement, c'est à la fois tout ce que tu viens de rappeler. C'est un mix de poujadisme fiscal, hein, donc de lutte contre l'État, qui en Italie a une connotation bien particulière, de lutte contre le communisme, car c'est quand même son credo, son créneau et son credo permanent. Hein. Il distribue à qui veut bien lui tendre la main, eh bien, des pamphlets anticommunistes, car effectivement, il est sans doute l'un des rares en Europe occidentale à ne pas s'être aperçu quand même que le mur de Berlin était tombé en 1989. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et il remet le couvert en permanence. Alors effectivement, il a démarré... ça, il ne s'agit pas de raconter sa vie, car elle est a priori sans aucun intérêt particulier. Mais il a démarré en politique relativement tardivement, après avoir fait carrière dans les affaires, ce qui lui avait valu d'avoir, avant son entrée en politique, un mini-empire aussi bien industriel, principalement dans le bâtiment et l'immobilier, dans le commerce de détail et dans les médias, hein, bien évidemment, puisqu'on ne l'a pas appelé Citizen Berlusconi pour rien. Une idée, je dirais, saugrenue a dû le traverser à un moment donné, et il est entré en politique car il s'imaginait le chevalier blanc qui allait nettoyer les écuries d'Augias, l'Italie, de ses scandales, de ses affaires, alors que lui-même, bien évidemment, était englué jusqu'au cou dans toutes les affaires. Bon, il serait beaucoup trop long, il nous faudrait au moins 3-4 émissions cumulées pour faire la liste de tous les procès que Berlusconi a perdus. Il a été condamné à de multiples reprises et il n'a eu de cesse. Au-delà de son projet, bien évidemment, ultralibéral en économie, car c'est irrépressif en matière morale. En gros, on se rapproche quand même d'un schéma assez classique d'un fascisme à la 21e siècle. Hein, c'est quelque chose, donc, ultralibéralisme en matière économique, en matière de mœurs, quelque chose de mixte, à la fois rigide et parfois ouvert quand c'est nécessaire. Mais donc Berlusconi n'a fait que faire voter des lois en sa faveur. En sa faveur, il y a des lois qui ne concernent qu'une seule personne, même s'il n'est jamais nommé. On nommera le président du conseil, on nommera un dirigeant d'entreprise, mais c'est de lui dont il s'agit, c'est-à-dire qu'il n'a eu de cesse que de faire modifier la loi pour pouvoir échapper à ces fameux juges rouges qui n'ont de rouge que le nom, mais qui essayaient a priori de faire leur boulot de façon satisfaisante, à savoir, eh bien, quelqu'un qui, surtout lorsqu'il s'agit de délinquance en col blanc, eh bien, a contrevenu à la loi, eh bien, doit être poursuivi et condamné s'il est reconnu coupable. Donc ça, c'est quelque chose. Et il a fait cela jusqu'au dernier moment, puisque l'une des dernières lois qu'il a fait voter, eh bien, ça a été la modification du système électoral. Là, ça a été le boomerang. Parce que concrètement, il a fait, sentant quand même les sondages en sa défaveur, il a fait voter une loi qui modifiait le système électoral, bon, n'entrons pas dans le détail sur comment les choses fonctionnent, pensant que ça lui donnerait quelque chose. En gros, il savait qu'il gagnerait de peu, et le système instituait une prime, en quelque sorte, à celui qui gagne, ben, il emporte le jackpot avec une grosse avance. Eh bien, concrètement, le boomerang est arrivé, c'est produit qui a gagné de peu, et ce peu lui a permis eh bien, d'avoir effectivement la prime à la majorité, donc de balayer Berlusconi d'une façon définitive sur un plan électoral, bien évidemment, ceci étant juste en termes de résultats, parce qu'après il faut, au-delà de la personne, parce qu'on s'est beaucoup focalisé sur la personne, on a un peu oublié, non pas son parti, parce que Forza Italia, qui est le parti de Silvio Berlusconi, on l'a souvent baptisé de parti entreprise, par exemple, effectivement, composé de ses cadres de direction, de ses multiples entreprises de communication, par exemple. Bon, n'avait de parti que le nom. Bon, il y avait, en gros, effectivement, par exemple, on sélectionnait les candidats aux élections législatives comme on sélectionne un candidat pour un casting ou pour un entretien d'embauche dans une multinationale européenne. Donc ça, c'était effectivement Forza Italia, qui derrière, bien évidemment, a servi de machine à recycler les démocrates chrétiens de toute obédience, les socialistes englués dans les affaires de corruption, etc., etc. Bon, tout cela, bien sûr, c'est de la politique à l'ancienne pour quelqu'un qui prétendait faire du neuf, mais aussi Berlusconi a des alliés. Alors des alliés tels que, par exemple, tu parlais de post-fasciste, effectivement, l'Alliance nationale, l'Alianza Nazionale de Gianfranco Fini, qui était jusqu'à encore peu de temps le ministre des Affaires étrangères de Berlusconi, qui était le vice-président du Conseil. Il faut quand même savoir que cet individu qui a sans doute, faisons-lui ce crédit, j'ai eu du mal à l'admettre, mais admettons, il n'est plus fasciste, mais il y a encore quelques années, pas 50 ans, pas 15 ans, quelques années seulement, c'était quelqu'un qui disait effectivement que Mussolini avait été le plus grand homme d'État italien et que le fascisme était quand même la plus grande, je dirais, bénédiction qui soit arrivée à l'Italie depuis de très, très nombreuses années. Bon, pour des raisons de recyclage, en France, on connaît ce processus. Hein, il a bien sûr, avec une partie des cadres dirigeants de son organisation, eh bien, il a changé. Il a changé. Il ne s'est, à mon sens, pas converti à la démocratie, simplement. Il s'est rendu compte que le parti qu'il dirigeait à l'époque, le Mouvement Social Italien, donc en droite ligne, issu du fascisme mussolinien, eh bien, ce mouvement ne pouvait pas, je dirais, se développer s'il restait enfermé dans un ghetto, en quelque sorte, idéologique et politique. Donc il fallait faire du neuf. Ce neuf, il a essayé de le faire en mettant en avant le terme de post-fascisme. Effectivement, de même qu'il y a les post-communistes, ils ont en gros, en Italie, il n'y a plus de communistes, donc il n'y a plus de fascistes, donc construisons sur de nouveau. Bon, là, il s'avançait un petit peu quant à l'analyse de ses adversaires politiques, mais pour autant, concernant son organisation, la tête de l'organisation, c'est effectivement ça. Par contre, les militants, car c'est un parti qui a des militants, autant Forza Italia n'a que des VRP, et des gens qui vont à la gamelle, en quelque sorte. L'Alliance nationale, c'est une organisation qui a ses racines, principalement dans le sud de l'Italie et dans le centre, mais qui a des milliers de militants. Militants au sens où, je dirais, on entend habituellement ce terme, c'est-à-dire des gens qui font de la politique, et pas uniquement à des fins de carrière ou de poste. Ce sont des militants qui croient. Et ils croient en quoi, justement, ces gens-là? Eh bien, ils croient non pas en Mussolini, bien qu'il y a la petite fille, j'en dirai deux mots, la fameuse Alessandra, mais il croit en eh bien, une Italie qui renouerait avec son passé colonial, par exemple. Hein, les opérations en Irak eh bien, participent tout à fait à ce processus, qui croit en l'État social. Effectivement, là, ça a généré des contradictions au sein du gouvernement de Berlusconi, enfin des gouvernements, puisque l'ultralibéralisme et l'État social, y compris à la version fasciste, c'est pas forcément toujours compatible. Hein. Il y avait quand même des difficultés de ce côté-là. Et donc, ce sont des gens qui, à des titres divers, eh bien, on les retrouve dans toutes, je dirais, les affaires. Et je ne parle pas que des plus anciens. Les plus anciens sont marqués à la culotte par les attentats, par exemple, par les années plus fameuses années plomb, les années 70. Ils y ont participé grandement. Et quand je dis « ils », ce ne sont pas les militants, les clampins au coin de la rue. Ce sont, par exemple, des gens qui étaient, il y a quelque temps encore, ministres de la Santé, ministres de l'Agriculture, présidents de la région du Latium, donc l'équivalent de Jean-Paul Huchon. Je ne fais pas offense, ce n'est pas mon ami, mais la comparaison s'arrêtera là. Mais effectivement, quelqu'un qui dirigeait la région du Latium, donc une région très importante, et quelqu'un qui, dans sa jeunesse, et il n'a pas 150 ans, hein, donc c'est un passé relativement récent, eh bien, participait aux manifestations, non pas avec un mégaphone, mais plutôt avec des barres de fer, et éventuellement d'autres engins contendants de même type. Bon, c'est ces gens-là qui s'intitulent eux-mêmes la droite sociale. La droite sociale, qui aujourd'hui, eh bien, ont perdu les élections. Donc, Forza Italia, l'Alliance nationale et la fameuse Ligue, la Ligue du Nord, donc d'Umberto Bossi, que tout le monde en France, je dirais, décrit comme étant xénophobe et raciste, en oubliant quand même que les deux autres alliés de cette fameuse ligue, eh bien, sont eux aussi xénophobes et racistes. C'est pas le vilain petit canard Bossi qui, effectivement, peut pas voir un immigré en peinture ou un Italien du Sud devant lui sans devenir tout rouge et avoir une crise cardiaque, car il a effectivement une crise cardiaque, cet homme-là. Hein. Personne n'est à l'abri de ce genre d'incident. Et concrètement, l'ensemble des forces politiques qui constituaient les gouvernements Berlusconi, eh bien, à des degrés divers, avec plus ou moins de finesse, eh bien, participer à ce processus. Enfin, en gros, la forteresse Europe, c'est pas un scoop, hein. C'est pas qu'en Italie, c'est dans tous les pays, mais disons que ce n'était pas le monopole de ce fameux Bossi. Ce qui était facile, hein, on ostraciser quelqu'un en disant oui, c'est notre allié, mais enfin, bon, il est effectivement pas très politiquement correct, mais vous savez, on a besoin de lui pour avoir la majorité. Pour autant, dans la majorité, il y avait effectivement des idées qui étaient absolument identiques, de même que la loi sur l'immigration, elle s'appelle la loi Fini-Bossi. Donc Fini Alliance Nationale et Bossi Ligue du Nord. Donc concrètement, c'était la même politique, simplement avec une acuité et une violence verbale, car effectivement, le quotidien, car ces gens-là ont des quotidiens. Il y a effectivement la Padania, donc la Padanie, c'est un pays inventé hein, par Bossi. Eh bien, à la une, un jour sur deux de ce quotidien, eh bien, il y a halte à l'invasion, les hordes débarquent. Enfin, ce sont des mots que l'on employait à la fin du 19e ou au début du 20e siècle, et que l'on retrouve tout à fait dans ce type de publication. Bon, le quotidien de l'Alliance nationale est plus policé, mais pour autant, lorsqu'on gratte dans des tribunes libres, dans le courrier des lecteurs, eh bien, tout cela revient très naturellement au galop, et parfois très, très au galop. Donc, voilà un petit peu les alliés du pouvoir. Bon, j'oublie, parce qu'ils comptaient peu, même s'ils étaient quand même présents, des résidus de la démocratie chrétienne sous diverses formules, des ex-socialistes à la Craxi. Alors, les socialistes en Italie, c'est pas forcément les auditeurs, les auditrices, hein, c'est pas forcément le PS à la française, hein, c'est un petit peu plus compliqué. Et effectivement, ces gens-là se sont, à un moment donné, clairement ralliés, pour une grosse partie d'entre eux, eh bien, à la fameuse Maison des Libertés, parce qu'un cartel était le nom du cartel électoral de Berlusconi. Ces gens-là, effectivement, ont perdu les élections. Tous, puisqu'ils ont perdu les élections, ont perdu des voix et des sièges, mais en face. Parce qu'effectivement, après, on est gagné après une grosse dizaine d'années de régime de rigueur, de répression policière, de racisme d'État, avec des centres de rétention. Je dirais, les nôtres ne sont pas fameux pour les immigrés qui transitent en Italie. C'était la même chose, ou un peu pire, si ce genre de degré est possible. Eh bien, concrètement, en face, il y a quelque chose qui s'appelle l'Union, donc dirigée donc par Prodi, et qui regroupe en son sein, par exemple, le Parti de la Refondation communiste, un mouvement qui s'appelle La Marguerite, hein, dirigé par l'ancien maire de Rome, bon, qui il y a des ex-écolos, je ne sais pas trop ce que c'est qu'un ex-écolo, mais enfin, des ex-écolos, des ex-verts, des ex-démocrates chrétiens, des ex-socialistes, enfin bon, c'est un creuset dans lequel eh bien un ragoût se fait et permet d'avoir des sièges et des postes, puisque cette personne avait été élue maire de Rome. Il y a aussi bien sûr l'ex parti communiste italien, donc qui aujourd'hui s'appelle les démocrates de gauche. Donc démocrates de gauche qui, quoi qu'on puisse penser du parti communiste italien, n'ont plus qu'un lointain rapport avec ce même parti. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement subi un processus de, le terme ne signifie pas grand-chose, mais de droitisation, je ne dis même pas de social-démocratisation, mais de droitisation forcenée, et aujourd'hui, effectivement, se situerait plutôt version Bérou à la française, hein, un Bérou qui aurait rencontré un Strauss-Kahn, par exemple, pour vous situer ce que ça peut concrètement représenter. Et donc, à la grâce non pas de Dieu, mais à la grâce de l'électorat, eh bien, la majorité de Berlusconi n'est plus. Donc, maintenant, c'est aussi l'heure des bilans, parce que ces gens-là ont été défaits électoralement, mais à si peu de voix. Je crois que j'ai noté, je crois, la différence. Je crois qu'il y a à peu près moins de 30 000 voix d'écart, ce qui est très très peu, ce qui a occasionné, comme je le disais, un psychodrame à la Floride, en quelque sorte, où on a dû recompter les voix plusieurs fois. Et c'est un petit peu le côté amusant, enfin ça ne fait rire que moi, mais des choses, c'est grâce en gros à l'électorat italien à l'étranger, car effectivement on n'aime pas les immigrés, mais quand même l'émigration italienne étant très importante de par le monde, eh bien, les fascistes, car ce sont eux, hein, du mouvement social italien, puis de l'Alliance nationale, se sont battus, pas tout seuls bien évidemment, mais pour que une circonscription dite de l'étranger soit instituée au Parlement au Parlement italien. Et donc, eh bien, ces fameux étrangers ont voté majoritairement pour l'Union. Donc, et c'est avec cet écart de siège très faible, eh bien, que Prodi a pu arriver au pouvoir. Alors, son programme, c'est quoi? Je disais centre-gauche, effectivement. Centre-gauche, car c'est un gros pavé dans lequel on trouve, bon, toutes les recettes habituelles, je dirais, du social-libéralisme matiné, de démocratie chrétienne. Donc c'est quelque chose d'un peu bizarre pour un auditeur, une auditrice française, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Bon, sur les sujets les plus importants, c'est l'ellipse, hein, qui préside quand même, c'est-à-dire qu'il y a peu d'engagement réel et ferme, y compris lorsque les choses ne coûtent pas un euro, parce qu'on a quand même affaire à quelqu'un qui est de matrice et qui le revendique comme telle, qui est une matrice catholique. C'est-à-dire que, y compris les mesures dites d'ordre moral, non pas d'ordre moral, mais moral, eh bien, il hésite à les prendre car il est très sensible aux pressions de, je dirais, de l'épiscopat. Il a, je crois, un ou deux frères qui sont prêtres. Enfin bon, c'est, il était à la démocratie chrétienne. Enfin bon, c'est quelqu'un qui est très imprégné de cette culture. Et en matière économique, bah, je dirais, son passage aussi bien au gouvernement italien qu'à Bruxelles, bah, indique clairement son orientation. Il n'a pas vraiment changé. Il fait même pas semblant de dire qu'il a changé. Enfin, en même temps, il est très honnête, j'allais dire, dans son attitude, à savoir, bah, mais je ne vous promets rien et je le réaliserai sans doute. Donc, a priori, c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Mais là encore, l'écart, enfin, une analyse, parce qu'il est encore trop tôt pour faire des analyses un petit peu plus fines, mais une analyse, effectivement, bon, il ne faisait pas spécialement rêver l'électorat italien, qui, par contre, voulait se débarrasser de Berlusconi, mais quand même, hein, l'écart a été très faible. Et tu parlais tout à l'heure, et ça sera, a priori, la fin d'un tour d'horizon rapide sur l'Italie. Il a réussi aussi à agréger autour de lui, les mouvements qui, eux, sont estampillés fascistes ou fascistoïdes pur jus, à savoir un mouvement qui est en fait un cartel électoral qui s'appelait, car il a aujourd'hui disparu, hein, parce que ça a beau être tout petit quand même, ça grenouille sec et ça, je dirais, ça scissionne très très vite, qui s'appelait Alternative Sociale, donc dirigé par Alessandra Mussolini, qui regroupait à la fois le parti croupion d'Alessandra Mussolini, qui est un tout petit truc, hein, parce qu'elle a quitté l'Alliance nationale, c'est la petite fille du dictateur du même nom, pour mémoire, quelqu'un qui en politique, bon, n'a pas vraiment inventé l'eau chaude, mais qui a quand même des convictions fascistes. Et lorsque Fini, donc, qui essayait de donner des gages de respect des institutions de la démocratie du XXIe siècle, lorsqu'il a indiqué que le fascisme était quand même une chose qui, bah, en gros, n'était pas bien, c'était quand même un peu une abomination quelque part, lorsqu'il a entrepris d'aller visiter Israël et eh bien reconnaître aussi que la Shoah, que les lois raciales adoptées par eh bien le grand-père de la même Alessandra, eh bien tout cela était quand même à mettre dans les poubelles de l'histoire, même s'il a été très très prudent. Je pense qu'il en est convaincu, mais pour autant, il a vraiment heurté une partie de son électorat et surtout de ses militants de base. Et Alessandra donc a quitté le parti, a créé une petite chose qui s'appelait Liberté d'Action et a créé ce cartel avec d'autres groupes, par exemple, tels que les groupes en question, c'est Forza Nuova, Force Nouvelle, très original pour un mouvement fasciste. Forza Nuova, c'est un groupe qui a le vent en poupe, à une échelle toute petite, hein, mais ce sont des gens, je dirais, farouchement attachés à l'ordre moral, extrêmement violents, même s'ils s'en défendent, violents au sens strict du terme, à savoir que la violence physique ne leur fait pas peur, bien au contraire, et qui ont, je dirais, le gros défaut, vu de chez nous antifascistes, hein, c'est d'être immensément riches, puisqu'ils sont à la tête d'un micro-empire immobilier en Italie et surtout en Grande-Bretagne. C'est-à-dire qu'il possède des milliers de chambres. Je crois que je l'avais déjà dit l'an passé, mais ça n'a fait qu'empirer en quelque sorte, parce que l'argent appelle l'argent. Donc, lorsque vous allez à Londres partager une chambre à quatre pour plusieurs dizaines, voire centaines de livres, eh bien, vous avez, hélas, une probabilité forte de tomber sur une des chambres possédées par ce monsieur qui s'appelle Roberto Fiore et qui, dans son jeune temps, quand même, a été impliqué dans l'attentat de la gare de Bologne, qui, je rappelle, a fait 80 morts.
Et c'est quoi qui fédère, en fait, sur le fond, ces différents groupes de la droite, l'extrême droite et droite extrême et italienne? Parce qu'entre la tendance un peu socialisante de l'Alliance nationale et les velléités ultralibérales d'Amir Berlusconi, c'est pas forcément compatible. Il y a quoi sur le fond qui font qu'aujourd'hui, il pèse encore dans la vie politique?
Une première réponse, c'est le pouvoir. Une première réponse, c'est le pouvoir, qu'effectivement, en restant pur et dur dans son ghetto, eh bien, on n'accède jamais au pouvoir. Donc, pour accéder au pouvoir, sauf à avoir la volonté que, par exemple, le Front National a pu avoir à une époque en France, à savoir « je grossis tellement qu'eh bien, j'arrive tout seul au pouvoir », ça suppose une stratégie d'alliance. Et, a priori, on s'allie avec des gens qui sont un peu différent de soi, bien qu'en grattant, en fait, c'est pas si évident que cela. On trouve pas forcément les bons aux bons endroits, mais quelque part, on doit faire des alliances. Alors ça, c'est valable pour la Ligue du Nord, qui elle avait un projet. Elle a atteint son objectif, hein, parce que je conclurai. Il y a eu d'autres élections au mois de fin mai et en juin, des élections régionales, donc municipales et provinciales, où là encore, le centre-gauche a conservé ses positions, à savoir par exemple la ville de Rome, la ville de Naples, qui lui sont restées, je dirais, en portefeuille, et a conquis de nouvelles grandes métropoles. Et il y a, la semaine prochaine, c'est pas un référendum d'initiative populaire, enfin un référendum constitutionnel. En Italie, cette possibilité existe, hein, de pouvoir changer par la voie référendaire la Constitution, ou de faire adopter des lois ou d'en abroger d'autres. Eh bien là, il s'agit, entre autres choses, d'une part, de faire un mixte, à savoir de donner raison à la Ligue du Nord, qui a une démarche de préférence régionale. En gros, c'est la même chose que le Front qui dit préférence nationale, sauf que là, c'est la région du Nord, bien sûr, la région riche, enfin le mot est peut-être pas approprié, mais enfin en tous les cas nettement mieux doté que les régions du Sud. Donc on donne satisfaction à cela en proposant de modifier la Constitution dans un sens, ce qu'ils appellent la dévolution. Donc c'est donner plus de pouvoir en matière législative aux régions, à tous les niveaux, au niveau éducatif, au niveau économique, au niveau policier, au niveau judiciaire. Donc ça, c'est le premier volet. En gros, on irait vers une Italie qui deviendrait fédérale, si tel était le choix des électeurs. Et il y a le second volet, parce qu'il faut quand même satisfaire tout le monde, c'est aussi l'Alliance nationale qui, elle, de même que Forza Italia et Berlusconi, voulait tirer le régime constitutionnel italien dans un sens présidentialiste, en quelque sorte. Donc là, on irait vers la mise en place d'un Premier ministre avec des pouvoirs, je dirais, très importants, et une diminution, je dirais, des prérogatives du Parlement, en quelque chose de relativement classique. Hein, chez les étudiants en droit, ils ont beaucoup phosphoré sur le sujet, mais c'est quelque chose qui, en Italie, est relativement nouveau. Et donc le référendum, bien sûr, les partis de la Maison des Libertés appellent à voter oui, et les partisans de Prodi, pour l'essentiel d'entre eux, appellent à voter non.
Mais ça fait pas une menace fasciste en soi. C'est quoi, sur le fond, il y a une volonté de s'en prendre aux institutions, de réformer l'organisation de la société, de mettre en place un certain nombre de lois, de mesures pour dénigrer certaines composantes de la société, de s'attaquer au régime démocratique, au parlementaire, qui existait malgré tout jusqu'alors.
Ah bah, tout a été fait. Alors, effectivement, le danger fasciste, effectivement, si on essaie d'aller en disant, en gros, les gouvernements de Berlusconi ont été la préfiguration du fascisme à l'italienne. La réponse, si c'est une question, la réponse, a priori, ça sera non. Par contre, bien évidemment, c'est un gouvernement liberticide. Certes, il en existe d'autres qui n'ont pas cette matrice historique liée au fascisme, mais en tous les cas, liberticide, ultralibéral, raciste. Tout ça, ça fait pas effectivement un régime fasciste, mais ça commence sérieusement à y ressembler. Et en même temps, effectivement, on pourrait poser la question, par exemple, en quoi c'est différent de ce que certains font ou veulent faire. Je pense, par exemple, aller au hasard à, je crois, quelqu'un qui s'appelle Sarkozy. Et Sarkozy, justement, les auditeurs le savent peut-être pas, et pour cause, mais Sarkozy, eh bien, est édité en Italie, car ce monsieur, en dehors de la politique, il écrit aussi des livres. Et l'un de ses livres a été publié par une maison d'édition liée à l'Alliance nationale, donc au post-fasciste. Et effectivement, il est régulièrement, je dirais, cité comme modèle. Un temps, c'était Chirac. Aujourd'hui, bon, Chirac, outre son âge, qui n'est pas en soi un handicap, mais enfin, les casseroles qu'il a, je dirais, font que, tout à l'heure, j'entendais la musique, Chirac serait en prison, je crois, donc c'est pas forcément le modèle à suivre. Par contre, Sarkozy, c'est effectivement devenu, pour une partie de la classe politique italienne à droite, eh bien, le modèle à suivre à tous les points de vue. Donc, on publie ses livres, hein, c'est un échange de bons procédés, c'est marginal, c'est une anecdote, mais c'était pas inintéressant, donc, de le rappeler. Donc, ce monsieur est publié par des gens qui s'appellent eux-mêmes post-fascistes, que moi, je dirais néo-fascistes, policés. Donc, c'est une illustration.
À la mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, 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 alla mattina. Alzata, il risaia mi tocca andare, e fra gli insetti e le zanzare. bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti e le zanzare, un duro lavoro mi tocca far. Oh mamma mia, che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni domani, io ti invoco ogni
stamattina, mi sono alzato,
io ti invoco ogni domani,
partigiano portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano portami via, che mi sento di morire, e se muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, e le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, morto per la libertà.
Voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 avec l'émission Les Oreilles Loin du Front. On continue avec Michel du CRIDA à faire un petit peu, après un gros point sur l'Europe, on va se promener en gros point sur l'Italie, on va se promener en Europe et on va aller du côté de la Pologne, puisqu'il y a quelques mois le gouvernement a changé avec une composition dont tu parlais tout à l'heure en disant des cubénis, des réactionnaires, des antisémites. Alors quoi d'autre dans le tableau de ce nouveau gouvernement ?
On y ajoutera des conservateurs. Et on aura fait le tour du gouvernement. Donc effectivement, c'est un gouvernement que l'on qualifierait a priori pas de progressiste, même en ayant une conception assez souple du mot. Effectivement, après une certaine période, je dirais, d'instabilité gouvernementale, après les élections qui ont eu lieu donc à l'automne de 2005, eh bien les conservateurs qui avaient une majorité relative, après avoir consulté, comme l'on dit, eh bien se sont non pas résignés, parce qu'apparemment ça n'a pas l'air de les traumatiser plus que ça, eh bien, ont décidé de faire alliance, et y compris donc parlementaire bien sûr, et donc en incluant des représentants de leurs nouveaux partenaires au sein du gouvernement, donc avec deux mouvements. Alors que classiquement en France, on qualifie pour le premier qui s'appelle Sommo Bruna, alors je m'excuse sur la prononciation, donc que l'on définit comme des populistes anti-libéraux, donc ça signifie autodéfense, le terme. En français courant dans le texte, et ils se sont surtout alliés. Alors ceux-là, je dirais que ce sont les moins pires dans l'échelle de Richter, hein, de l'extrémisme, mais se sont surtout alliés à une organisation que, a priori, l'ensemble des observateurs qualifient d'ultra-catholique dans le plus mauvais sens du terme, j'allais dire, donc qui s'appelle la Ligue des Familles Polonaises. La Ligue des Familles Polonaises, qui effectivement se distingue par, eh bien, des positionnements les plus conservateurs, les plus réactionnaires, les plus racistes au sens effectivement pas tant vis-à-vis de l'immigration, bien que il faudrait regarder de beaucoup plus près, mais surtout bon vis-à-vis effectivement de la population juive, pour autant qu'il en reste une en Pologne, mais c'est quelque chose effectivement qui est très très fort, bien sûr. Ce sont des défenseurs de l'ordre moral. Et je donne un exemple. Ils ont, ces gens-là, le ministère de l'Éducation nationale. Bon, c'est, bah oui, forcément, ils ont peut-être eu le choix entre ça et la police, donc ils se sont dit on va formater les jeunes esprits, et puis après on verra. Eh bien, le ministre de l'Éducation nationale, qui s'appelle Monsieur Roman Giertych, eh bien, a licencié, a viré en quelque sorte, hein, l'un de ses collaborateurs, qui était chargé de la formation continue des enseignants, car celui-ci avait commis la faute absolument, effectivement, tout à fait, je dirais, il fallait le licencier, de diffuser parmi les enseignants donc un document issu du Conseil de l'Europe, institution révolutionnaire que chacun connaît. En gros, c'est l'équivalent de l'Union européenne, mais avec quelques pays supplémentaires, dont effectivement la Pologne. Et dans ce fameux document qui traitait, eh bien, des droits de l'homme, jusque-là, les conservateurs pouvaient s'en accommoder. Par contre, il y avait quand même, eh bien, dans les droits de l'homme, il y a aussi la défense des minorités. Et dans les minorités, eh bien, il y a les homosexuels. Et ça, c'était la ligne rouge qui a été mordue par ce collaborateur du ministre et donc qui lui a valu d'être licencié. C'est une anecdote, mais qui révèle bien, je dirais, la volonté politique de ce gouvernement. Alors, en début d'émission, j'indiquais effectivement que j'étais scandalisé, non pas tant par le comportement de ces individus, car a priori, que peut-on attendre de racistes, de réactionnaires, d'ultra-libéraux, si ce n'est qu'ils mettent en œuvre leur politique. Par contre, ce qui me scandalise, même si je suis quand même relativement sans beaucoup d'illusions quant à la démocratie européenne et aux valeurs dites républicaines, pour autant, lorsque en Autriche, il y a quelques années maintenant, un gouvernement de droite s'était allié à l'extrême droite de Jörg Haider, eh bien, certains étaient allés jusqu'à parler de, effectivement, de boycotter ce pays, de le mettre au banc de la société démocratique européenne, bon, avec des résultats qui sont bien sûr très discutables. Il s'agissait sans doute d'effets d'annonce, mais en tous les cas, formellement, il y avait eu cette volonté de se démarquer de ce pays, non pas pour culpabiliser les Autrichiens, mais par contre pour bien faire comprendre, effectivement, qu'il y a des gens avec qui on ne peut pas s'associer. Eh bien, en Pologne, hormis quelques protestations ici ou là, j'entends bien sûr des partis politiques, des organisations de défense des droits de l'homme, de défense des droits des femmes, de défense des droits des homosexuels, bien évidemment, protestent, mais moi je pensais aux protestations gouvernementales. Là, au Parlement européen, il y a un petit frémissement ces dernières semaines, en disant quand même, ils ont un peu la dent dure, ces Polonais, il faudrait peut-être quand même leur rappeler que, effectivement, l'Union européenne, dans laquelle, eh bien, tous ces gens-là doivent prochainement, je dirais, évoluer, eh bien, c'est aussi le respect de certaines règles, etc., etc. Bon, mais ça ne va pas au-delà de, je dirais, de très faibles rappels, et en aucun cas de l'organisation de campagne, car il s'agit quand même, lorsqu'on parle d'antisémitisme en Pologne ou d'ordre moral, on n'a quand même pas affaire à un pays complètement vierge en la matière. C'est-à-dire que tout à l'heure, si je disais que la population juive en Pologne, de mémoire, est quand même relativement peu nombreuse, certes, les nazis sont passés par là, avec la Shoah, mais aussi les Polonais, les gouvernements, aussi bien, je dirais, avant qu'après-guerre, ont contribué à cela avec des moyens différents, des moyens criminels et des moyens politiques d'ostracisation, mais pour autant, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Donc, je pensais eh bien, qu'il y aurait au moins sur le papier et dans les médias cette volonté affirmée de non pas de rompre, bien, pourquoi pas, tout est possible dans ce bas monde, mais en tous les cas, de bien marquer la frontière entre ce qu'il est possible de faire et ce qu'il n'est pas possible de faire, et de demander effectivement que ces gens-là, à minima, quittent le gouvernement polonais.
Oui, parce que précisément, au-delà de l'arrivée au pouvoir de cette formation, déjà aux côtés du gouvernement déjà très conservateur, est-ce que dans les faits, dans les pratiques, dans les déclarations, il y a des motifs d'inquiétude particuliers à avoir sur justement ce qui se passe aujourd'hui en Pologne ?
Bah, des motifs au-delà effectivement de l'anecdote et d'un danger que l'on peut subodorer, il y a effectivement, si cela est possible, hein, une droitisation en quelque sorte de la société. Il y a une radio dont on parle beaucoup, ça en France on en a beaucoup parlé, on a focalisé beaucoup là-dessus, puisque nous sommes à la radio, parlons-en, mais une radio effectivement qui est possédée par, je dirais, un groupe ultra-catholique, mais qui effectivement fait du dérapage son menu quotidien, le dérapage antisémite, le dérapage anti-homosexuel, le dérapage anti-progressiste, le dérapage anti-communiste. Bien évidemment, tout cela est son pain quotidien, ce qui pour les catholiques est banal, mais des catholiques, des ultra-catholiques, des intégristes de la pire espèce, mais ça, c'est un petit peu aussi à l'image de certains comportements. C'est-à-dire qu'il y a effectivement cette radio avec des déclinaisons en matière de presse-papier, mais il y a aussi après tout un ensemble de choses. Et pour l'instant, ce que l'on voit, bon, je ne lis pas le polonais, mais nous avons des amis en Pologne hein, qui nous envoient régulièrement des informations. La politique gouvernementale, pour l'instant, j'allais dire, ne va pas dans le bon sens, c'est hélas une évidence. Mais par contre, derrière, il y a des gens qui se sentent pousser des ailes. Et tout à l'heure, quand je parlais de violence, c'était ça aussi l'inquiétude. Bien sûr, il y a d'autres pays où la droite musclée, la droite extrême fait des scores non négligeables, bien évidemment. J'en dirais un petit mot, la Grande-Bretagne, par exemple, avec les dernières élections municipales. Mais concrètement, les ratonnades, les manifestations anti-gay pride, qui, la gay pride devenant aujourd'hui quelque chose à vocation universelle, beaucoup d'organisations dans les pays, parce que les pays n'organisent rien, beaucoup d'organisations dans les pays européens, entre autres, essaient de mettre en place de telles initiatives à la fois festives et politiques, car je pense que le côté festif, c'est pas encore vraiment l'ordre du jour dans ces pays. On est quand même sur de l'affirmation, y compris face à des violences physiques, on l'a vu en Russie, c'est la même chose dans d'autres pays, dont la Pologne. Donc effectivement, après, il y a les fameux bonnets, les skins d'extrême droite qui se sentent pousser des ailes, comme je disais, et qui ratonnent à tour de bras. Il y a effectivement, en Pologne, il n'existe pas de structure qui recense, je dirais, les agressions, les attentats de façon non pas scientifique, mais militante, parce qu'effectivement, nos amis ont peu de moyens. Ils évoluent dans un milieu quand même, on dira, hostile, hein, très hostile même, donc c'est pas facile. Mais en tous les cas, les infos qu'il faut remonter sont, je ne vais pas dire catastrophiques, apocalyptiques, mais en tous les cas, sont extrêmement inquiétantes, gravissimes. Donc ça, c'est la Pologne. Si on s'éloigne un petit peu, un pays voisin, à la Russie. La Russie, il y a encore peu de temps, hein, à Paris, comme dans pas mal de capitales européennes, étaient organisées des manifestations devant l'ambassade du pays en question pour protester à la fois, bien sûr, contre la politique de Poutine, mais aussi pour, je dirais, s'émouvoir du sort qui était fait à la fois aux immigrés. Effectivement, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, il ne fait pas bon être noir, d'après ce qu'en disent nos amis antifascistes moscovites. Il ne fait pas bon non plus être antifasciste, car on ne compte plus. Enfin, si, hélas, là, on les compte, parce que c'est par dizaines. Alors, les Tchétchènes, je n'en parle pas, hein, parce que, bon, les Tchétchènes, effectivement, leur sort est bien évidemment plus enviable, mais des étudiants étrangers, par exemple, des Roms, sont systématiquement agressés. Quand je parle d'agression, on n'est pas sur le cassage de gueule, on est sur l'assassinat. L'assassinat. Donc c'est quelque chose d'extrêmement régulier, quotidien. Et les antifascistes, et c'était ce qui valait cette manifestation devant l'ambassade de Russie, eh bien face à la terreur néo-nazie, effectivement, en solidarité avec les antifascistes russes, il y a 4 antifascistes qui ont été assassinés de façon, je dirais, organisée, hein, à leur domicile, devant leur domicile, de façon quasi, je dirais, militaire. Donc on voit aussi d'où peuvent venir, je dirais, les commanditaires de telles violences fascistes et racistes. C'est quelque chose qui est très, très inquiétant.
Mais peut-être d'autant plus inquiétant qu'apparemment, il y a eu très peu de réactions de la part de l'appareil d'État, qui a une tendance à couvrir ou au moins à ignorer ce type de comportement.
Ah, absolument, l'appareil d'État qui lui-même poursuit ses propres croisades, et je parlais des Tchétchènes, hein, c'est effectivement, il faut aussi laisser quelques soupapes de sécurité pour une partie, non pas de la population, mais pour une partie des activistes. Donc effectivement, le gouvernement ne fait rien. Les enquêtes, bien évidemment, policières après les assassinats de nos camarades russes, ne mènent nulle part, voire même mettent en danger les rares qui auraient le courage de témoigner, car effectivement, témoigner, ça veut dire donner son adresse, se faire prendre en photo, etc., etc., ce qui veut dire concrètement qu'on est le prochain sur la liste. Bon, a priori, ça incite pas vraiment. L'appareil juridico-policier russe, aux mains des amis de Poutine, hein, il fait le ménage effectivement côté oligarque, mais il maintient, je dirais, aussi plusieurs fers au feu. Hein, et donc, l'anti-antifascisme, en quelque sorte, le racisme, fait aussi partie des outils de gestion du quotidien. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'individus dangereux. effectivement, dans ce dangereux au sens de militairement dangereux, capable de commettre des attentats, des agressions physiques, des assassinats, dans un pays quand même où le chaos économique, la misère, je ne fais pas Zola, la version russe, hein, mais c'est quand même une réalité. Donc effectivement, il y a des organisations fascistes, fascistoïdes, nationalistes, avec un croisement de rouge-brun par ailleurs. Tout cela fait que c'est pas très très bon en termes de perspective. Et la Russie est un grand pays. Donc on n'est pas sur, je dirais, le Luxembourg qui connaît ce genre de choses, mais à un degré quand même nettement moindre. Voilà pour la Russie. Donc effectivement, côté de l'Est européen, pour ne citer que ces deux pays, c'est peu brillant, très très inquiétant. Et nous devons, je dirais, même s'il y a toujours des difficultés déjà d'information, de langue, parce qu'effectivement, le russe, le polonais, bon, ce ne sont pas des langues couramment parlées dans nos quartiers. Donc c'est quelque chose qu'il faut, il faut faire l'effort, je crois, d'aller au-devant, d'affirmer notre solidarité, mais aussi de diffuser l'information. Je crois que c'est aussi ça qui... Les antifascistes polonais et russes sont peu nombreux, pas très bien organisés et pour cause. Hein, et je dirais, ils attendent vraiment avec impatience l'expression de notre solidarité, ce genre de mission et d'autres, manifestations, tout cela y contribue, même si ça peut paraître dérisoire.
Spanien, juillet 1936.
Die Herren Generäle, Mamita mia,
haben uns verraten. Wer hat denn diese Herren,
Mamita mia,
so schlecht beraten. Madrid, dich wunderbare,
Mamita mia, dich wollten sie nehmen.
Marsch aus, Legionarios,
Hitlerianos,
marsch aus, Invasores,
Mamita mia,
a vuestra tierra,
Porque el proletariado,
mamita mia,
ganó la guerra.
Voilà, malgré le côté un petit peu rude, ce sont bien des camarades à nous qui chantent, puisque c'était les brigades internationales allemandes. On est toujours avec Michel, on continue à faire le tour de l'Europe des droites extrêmes et de l'extrême droite. On voulait aborder deux autres pays. Tu nous proposais de faire un petit peu, de pencher notre regard sur la Belgique et sur la Grande-Bretagne, où il y a eu des élections récemment municipales, si je me trompe pas, qui ont vu se renforcer la position de l'extrême droite.
Absolument, effectivement, en Grande-Bretagne au mois de mai dernier, donc il y a eu des élections municipales. Donc en Grande-Bretagne, il faut savoir que bon, le système électoral national empêche toute possibilité, je dirais, des partis minoritaires d'accéder, je dirais, au Parlement, car c'est un scrutin à un tour, enfin bon, un système relativement peu démocratique, mais en est-il qu'il soit démocratique, c'est un autre débat. Mais donc une extrême droite relativement ancienne et qui, ces derniers temps, attentat de Londres de juillet dernier, je dirais, à l'appui, eh bien, on en profitait pour agiter le spectre de l'islamisme, de l'islam politique, des attentats à la sauce britannique, c'est-à-dire qu'avec une population, effectivement, qui, pour partie, je dirais, vient du royaume, mais est britannique, est citoyenne britannique. Donc, c'est quelque chose d'important. Donc, il y a un parti qui s'appelle le BNP, le British National Party, qui est dirigé par un certain Nick Griffin, qui jusqu'à présent, qui est un ami du Front National, hein, parce que la dernière fête des BBR au Bourget, donc des bleus, blancs, rouges, il ne faut pas y aller, donc on s'en charge, mais eh bien, avait un stand avait un stand, et ces gens-là, bon, végétaient électoralement, je dirais, à des scores relativement ridicules, mais ils avaient quelques élus dans les conseils municipaux, principalement dans la banlieue de Londres, la banlieue dans l'est londonien, bon, une banlieue, enfin la banlieue de Londres, je ne sais pas ce que ça signifie, enfin disons dans les quartiers populaires de l'est londonien, et là, le résultat des élections, c'est 33 sièges. Alors 33 sièges, effectivement, c'est ridicule par rapport aux milliers de sièges qui étaient, je dirais, en compétition. Mais là où ils ont été élus, ils ont été bien élus. Et c'est pas un siège ici, un siège là. C'est, ils sont rentrés en force dans certains conseils, enfin l'équivalent de conseils municipaux. Et donc maintenant, ils ont une réelle capacité de nuisance, d'autant qu'ils ne sont pas les seuls. Donc il existe d'autres structures extrémistes, bien évidemment, sans parler de courants au sein du Parti conservateur qui... ont historiquement des relations avec la droite extrême la plus radicale, mais qui, eux-mêmes déjà, indépendamment de ses contacts et de ses relations historiques, sont gratinés. Donc il y a aussi une nouvelle formation qui s'appelle l'UKIP, c'est le Parti pour l'indépendance de la Grande-Bretagne, bon, fondamentalement anti-européen, avec des transfuges du Parti conservateur, des différentes sectes extrémistes, et qui a fait une entrée en force au Parlement européen il y a aux dernières élections. Et donc effectivement, les attentats du 7 et du 21 juillet dernier, donc dans le métro et dans les autobus à Londres, donc on fait effectivement un peu, je dirais, ému, on serait à moins la population londonienne, et donc on constituait un terreau, je dirais, un boulevard en quelque sorte pour l'élection de ce genre d'individu. Donc relativisons, mais simplement, c'est une organisation qui, aujourd'hui, à pignon sur rue, a créé récemment son syndicat, avec de gros guillemets, hein, bien évidemment, car ses militants un peu identifiés étaient exclus des syndicats britanniques traditionnels. Donc, eh bien, ils ont décidé de servir eux-mêmes, c'est-à-dire donc de créer leur structure, entre guillemets, syndicale. Donc ça, c'est pour la Grande-Bretagne, avec bien sûr aussi sa cohorte d'agression à la britannique. Mais enfin, ça fait toujours aussi mal les coups de barre de fer, hein, qu'ils soient avec ou sans accent d'Oxford. La Belgique. Bon, on l'a tous vu à la télévision, hein, des attentats gratuits, racistes, a dit une certaine presse. En creusant, c'est pas si gratuit, raciste bien évidemment, mais pas si gratuit que ça. C'est pas la folie furieuse d'un Brunnery qui aurait pété les plombs. C'est quelqu'un, par exemple, l'auteur du double meurtre qui a tué, je crois, une jeune femme et une petite fille. Eh bien, cet adolescent, eh bien, en fait, est le neveu de l'une des parlementaires du Vlaams Belang. Le Vlaams Belang, c'est, pour faire très très court, et même si les nuances sont importantes, c'est le Front National local en quelque sorte, qui baignait familialement dans un univers où effectivement le racisme, la valorisation de l'attitude flamande, était quelque chose de quotidien. Et bien, donc à un moment donné, lorsqu'on baigne là-dedans, et bien parfois on passe à l'acte et ça donne ce genre de résultat. Je n'en tire aucune conclusion particulière. Par contre, les électeurs, eux, en tirent des conclusions particulières, parce qu'un sondage vient de sortir lundi, donc c'est très très récent, il y a deux jours, qui donne le Vlaams Belang en tête des élections en Flandre, hein, bien évidemment, parce qu'il ne se présente qu'en Flandre et à Bruxelles, parce que le reste de la Belgique, eh bien, c'est pas la Belgique, c'est le tiers-monde, hein, concrètement. La Wallonie, c'est le tiers-monde, donc avec 26,6% des voix. C'est-à-dire, il deviendrait le premier parti en Flandre. Ils le sont déjà dans pas mal de villes, à Anvers par exemple, où d'ailleurs ils n'hésitent pas à faire dans le fin, puisqu'ils racolent, y compris des électorats peu habitués à les fréquenter, tels que par exemple, quand je parle à Anvers, l'électorat juif, une partie de l'électorat juif, l'électorat ouvrier, bien évidemment, avec le port de Rotterdam, etc., etc. Donc ce sont des gens qui ont le vent en poupe dans une région où on ne peut pas expliquer le vote par un vote de désespoir, de misère, car la Flandre est sûrement l'une des régions les plus prospères d'Europe, où il y a quasiment du plein emploi, où une immigration, certes, existe, je ne dis pas que l'immigration serait la cause, mais qui peut servir d'argumentation pour expliquer des résultats électoraux. Là on est sur bien autre chose, donc sur une affirmation. On n'est plus sur des gens qui s'égareraient, mais bien sur des gens qui, en positif, avec des gros gros guillemets, eh bien, revendiquent ce type de comportement et ce type de positionnement politique.
Mais on a quand même une explication un peu sur justement cette dérive.
La dérive, c'est d'une part, quand même, en Flandre, il y a toujours Russes, historiquement, ce sentiment nationaliste, à des degrés différents, qui n'a pas toujours été d'ailleurs d'extrême droite, bien évidemment, hein, mais un nationalisme, eh bien, que le Vlaams Blok, dans un premier temps, puis son remplaçant juridique, donc le Vlaams Belang, eh bien, ont su flatter dans le bon sens, et avec aussi la mise, je dirais, en avant du petit frère, du voisin, enfin, du vilain petit frère, du vilain petit canard, c'est-à-dire la Wallonie, qui, aujourd'hui, est englué dans de nombreuses affaires, je dirais, politico-judiciaires, où, effectivement, c'est le centre-gauche qui dirige de nombreuses municipalités. Et là, il y a beaucoup d'affaires. Bon, apparemment, c'est quelque chose qui... C'est la loi des séries. Et ils s'en servent pour eh bien, valoriser la bonne gestion qu'ils peuvent éventuellement mettre en œuvre là où ils sont aux affaires. Leur slogan, quand même, il faut se rappeler, c'est « Belgique crève ». Donc, Belgique crève. Alors, en flamand, je vous le fais pas, mais c'est Belgique crève. C'est-à-dire qu'en gros, on en a marre de payer pour les pauvres d'Europe, bien évidemment, mais dans notre propre pays, d'autant que ce pays, nous ne le reconnaissons pas comme étant un pays. On nous l'a imposé, c'est l'histoire qui nous l'a imposé. Nous voulons construire un pays qui s'appellerait la Flandre. Ça, c'était pour la Belgique. Et effectivement, mon ami Manuel Abramovitz m'en aurait voulu, donc l'un des animateurs des réseaux antifascistes belges, parce que lui, il est belge. Il y a à la fois des antifascistes flamands et des antifascistes wallons, et donc tous ces gens-là sont belges. Par ailleurs, il y a aussi de nombreux immigrés parmi eux. Mais juste, c'est d'époque, hein, même si personnellement le football n'est pas ma tasse de thé, hein, loin s'en faut, l'Allemagne. Alors, je ne parlerai pas du bordel géant, bien évidemment, hein, qui est organisé à l'occasion de la Coupe du Monde de football, mais par contre, l'occasion qui est fournie aux différents mouvements, style NPD, groupe de skins, plus ou moins organisés, groupe de supporters de différentes équipes, et bien de se manifester, savoir que c'est une occasion en or. La police a surtout focalisé sur effectivement les débordements dans les stades et aux alentours des stades, mais les néo-nazis allemands, car ils existent, et c'est comme ça qu'ils s'appellent, d'ailleurs ils en sont fiers, hein, y a pas de souci sur l'appellation, eh bien n'hésitent pas à manifester. Là, ils ont manifesté il y a encore peu de temps dans l'une des villes où eh bien les matchs ont lieu, profitant effectivement des centaines de caméras qui existent pour parader, je dirais, à l'hitlérienne, hein, classique, hein, c'est pas un cliché, c'est une réalité, il suffit de les voir sur les images d'ailleurs que l'on ne nous montre pas à la télévision. Et il y a bien sûr là aussi encore une recrudescence importante des agressions racistes à l'égard de tout ce qui effectivement n'est pas fondamentalement allemand au sens où ces gens-là le définissent, c'est-à-dire une conception bien connotée historiquement.
Alors juste pour terminer cette émission, on va retourner en France. Moi j'ai eu écho, enfin on a eu écho du Front National qui se tournait vers les autres organisations d'extrême droite, en particulier le MNR, pour proposer une sorte d'accord de non-concurrence. Qu'est-ce qu'il en est?
C'est à la fois, enfin, pour autant que l'on puisse, non pas comprendre, mais un petit peu lire entre les lignes, effectivement, les extrémistes français, déjà en créant le Front en son temps, ont montré qu'ils savaient se rassembler autour d'objectifs communs élémentaires, à savoir l'accession au pouvoir, au-delà des divergences que les uns et les autres peuvent avoir, et parfois elles sont grandes, entre un Bernard Anthony et un catholique intégriste et un païen, il n'y a pas grand rapport, si ce n'est d'être dans la même organisation politique, même si ce n'est pas sans tiraillement. Bon, l'actualité récente a montré que c'était un peu compliqué, que l'exclusion pouvait aussi fonctionner dans cette organisation. À la limite, ce n'est pas notre problème, mais je ne suis pas encore prêt à signer une pétition pour le respect du droit démocratique au sein du Front National, plaisanterie mise à part. Donc, mais effectivement, il y a cette volonté, d'une part, d'essayer d'assécher quand même la concurrence, parce que c'est quand même ça qui est pointé. Autant le Front s'est refait, bien sûr, une santé depuis la scission avec le Mouvement National Républicain de Bruno Maigret, qui lui, par contre, est complètement dans les choux. Enfin, le MNR, d'une part, n'existe plus électoralement. Financièrement, ils sont quasi ruinés pour les générations futures, sauf si quelqu'un, je dirais, leur donne un petit coup de main. Et c'est quelqu'un existe, hein, on peut les trouver. De l'argent à ce niveau-là, ça se trouve. Et bien sûr, et politiquement, leur projet est plus que flou. Aujourd'hui, bah, l'expression du MNR, hein, c'est de temps en temps, sur Internet, la publication d'un numéro spécial du chêne. Le chêne, c'est donc... le journal du MNR, bon, avec trois pages, bon, en gros, concrètement, ce n'est plus une organisation politique qui a pignon sur rue. Elle est virtuelle, comme d'ailleurs ses dirigeants ont réintégré leurs activités professionnelles. Bon, Maigret a réintégré le ministère. Bon, concrètement, ça n'existe plus. Pour autant, ça peut faire une concurrence parce que les présidentielles et les législatives en perspective, eh bien, il faut, comme tout le monde, ils savent qu'il faut la barre de 500 signatures. Eh bien, le Front, même si aujourd'hui il pérore en disant « j'ai déjà 250 signatures », bon, il a déjà tous ses conseillers régionaux, ses parlementaires européens, ce qui fait déjà un nombre non négligeable, mais pour la suite, ça va être compliqué. Donc s'il y a une concurrence, je dirais, à droite de la droite, à savoir avec le mouvement de Villiers, le mouvement pour la France, avec éventuellement le MNR, avec éventuellement d'autres, eh bien, ça pourrait compromettre, je dirais, les espoirs d'une présence déjà au premier tour, et rêvons, disent-ils, je ne m'approprie pas ce propos, rêvons une présence au deuxième tour, en recommençant l'opération avec le papa ou avec la fille, le cas échéant. Donc c'est quelque chose qui est bien présent. En même temps, à l'extrême droite, c'est le pacte nationaliste ou le pacte patriotique, c'est quelque chose qui existe.
Mais en même temps, comment vous expliquez la fin de non-recevoir qu'a adressé De Villiers à Le Pen? Il n'y a pas cette stratégie d'alliance, justement, pour prendre le pouvoir?
Apparemment, pour autant qu'on puisse comprendre, décrypter un petit peu la politique de Villiers, hein, son propos, effectivement, c'est de se construire en allant, je dirais, piétiner allègrement les plates-bandes du Front National, mais a priori, pas de s'allier avec le Front National, même si aujourd'hui, une grosse partie du staff, à savoir les gens qui pensent et les gens qui font, chez De Villiers proviennent du Front, et ce ne sont pas les militants obscurs qui collent les affiches, hein. Ce sont les dirigeants, les anciens dirigeants du Front National de la Jeunesse, des anciens cadres, passés par certains par le sas du MNR, puis ils ont fait un tour complet de la place politique et reviennent en quelque sorte à quelque chose où ils peuvent développer leurs idées avec le côté respectable en plus, car quand même, De Villiers, on peut dire que c'est quand même la politique du Front, dans ses outrances les plus flagrantes, avec la respectabilité. Il y a encore peu de temps, De Villiers était membre de l'UMP, je crois.
De l'UDF,
autant pour moi. Je connais moins.
Voilà, cette émission se termine. Merci beaucoup, Michel, pour ce tour un peu sinistre de l'Europe, mais enfin ça s'améliore pas à chaque fois que tu viens, en fait.
J'espère ne pas revenir l'année prochaine.
Voilà, donc à bientôt et merci beaucoup.
Alors, bonsoir.
Go, attention, enclenche les rétrofusées.
Voilà l'été. Alors ce soir, pour fêter ça, en short et un doigt sur la gâchette, l'autre sur le volume, on avait Fred et Jérémy. Ce soir, en tongs et en chemise à fleurs, important, on avait le pourfendeur improbable de l'industrie du disque, c'était Guillaume, et puis il y avait aussi Alexandrine. Et puis ce soir, en bikini et paréo, on avait celles qui, bien qu'elles occupent des positions différentes sur les plages privées l'été, occupent le même prénom, c'était donc les Juliettes. Et puis dans le rôle du commissaire politique, ce soir, on avait la radieuse et ronde Sylvie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition des oreilles loin du front. D'ici là, on vous abandonne dans les bras d'Écho du Capricorne. À ciao.